Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Je reçois aujourd'hui Farid Alilad. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour Jeune Afrique et vous couvrez l'Algérie depuis...
Pour Jeune Afrique depuis 2004.
D'accord. Vous écrivez Bouteflika, l'histoire secrète aux éditions du Rocher. C'est une biographie de l'ancien président algérien. Comment on peut expliquer le peu de livres qui lui a été consacré en 20 ans ?
Il n'est pas le seul. Hein. Il y a très, très peu de livres sur Bouteflika, très peu de livres sur Boumediene, très peu de livres sur Bembella, très peu de livres sur Zeroual ou Chadli.
Même Boudiaf, c'est vrai qu'il y a eu...
Boudiaf. Je crois que d'abord, il y a la difficulté d'accéder aux sources d'informations. Ça a toujours été le cas en Algérie, ça l'est toujours. Et, documenter l'histoire récente ou contemporaine de l'Algérie est un exercice difficile dans la mesure voilà, où les acteurs ne parlent pas, où ils sont disparus, où ils sont affectés par l'âge.
Ils sont résistants quand même. Hein. Il y a une génération qui est...
Oui. Et c'est comme ça, c'est la tradition de l'omerta, de la confidentialité, qui est un héritage de la guerre d'indépendance, qui fait que les acteurs, les hommes politiques sont réticents à parler aux journalistes ou aux historiens.
Alors un livre que vous avez porté pendant presque 20 ans, hein, avec toutes vos archives, les interviews que vous avez faites, les rencontres que vous avez faites, c'est comme un thriller, hein, on ne le lâche pas, il y a énormément d'informations. On apprend dans votre livre qu'à 21 ans, Bouteflika déclare déjà vouloir être président de la République, c'est quand même pas commun. Un jeune de 21 ans qui dit aux gens qui sont autour de lui alors qu'il est à l'armée, un jour je serai président de la République.
C'est l'ambition. C'est une ambition dévoreuse. Qui est devenu après une obsession. Je ne sais pas si c'est une boutade ou c'est quelque chose qui était ancré dans sa tête, mais je pense que c'est une ambition qu'il avait à partir de 20 ans. Donc voilà, c'est en 58, je raconte, c'est qu'en 58, à la fin d'une mission de contrôle. En Algérie, ils sont en quatre, ils terminent les quatre, c'est des contrôleurs de l'armée. Bouteflika a été contrôleur de l'armée, il a fait trois missions.
C'est pour dire qu'il n'en a pas fait beaucoup. Hein.
Oui, il a fait trois missions. Trois missions en tant que contrôleur, il a fait d'abord une petite formation d'un mois et demi. Ensuite, il a été envoyé. J'explique qu'est-ce que c'est que mission de contrôle, parce que la Wilaya 5 qui était dans la base était installée au Maroc. C'est la seule Wilaya où les dirigeants étaient installés en dehors des frontières. Donc pour voir, pour inspecter, avoir le moral des troupes, etc. Donc on envoyait des contrôleurs. Donc Bouteflika a fait trois missions de contrôle en partant d'Oujda vers certaines localités en Algérie. Ensuite il repart à Oujda pour faire son rapport.
Donc, à Boumediene.
Voilà, à Boumediene et à Boussouf. Et au cours de la dernière mission, donc, ils sont quatre contrôleurs. Le soir, avant de repartir au Maroc, le soir, ils discutent comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire si jamais le pays accède à l'indépendance ? Un, il dit, moi, je vais reprendre mes études. Et l'autre dit, moi, je veux faire une carrière militaire. Et l'autre, je veux faire dans les affaires. Et toi, Bouteflika, qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je veux devenir président. Donc à 20 ans, il avait cette vision lointaine de devenir un jour président. Et c'est, comme je l'explique dans le livre, et c'est absolument cette obsession de conquérir le pouvoir qui a guidé sa vie.
Et d'ailleurs, sa mère, Mansouria, disait qu'il soit au moins un jour président.
Ça, c'était à la mort de Boumediene. Elle se confie à une personne qui me raconte ça. Et elle lui dit, mon Dieu, faites qu'il soit président ne serait-ce qu'un jour. Même, c'est-à-dire que cette ambition est partagée par la mère.
Alors sa mère, c'est Mansouria. Sa mère, on sait qu'elle joue une place prépondérante dans sa vie. C'est même peut-être la femme de sa vie.
C'est la femme de sa vie.
Et alors, il n'y a pas de père dans sa biographie officielle. Vous menez l'enquête sur le père, Ahmed. C'est lui qui fait le voyage pour aller à Oujda.
Oui.
Et là, on découvre un père qui est décoré de l'équivalent de la Légion d'honneur marocaine.
Oui.
Le Wissam Alaouit. Hein.
Voilà. Son père reçoit la Légion d'honneur, le Wissam Alaouit, au Maroc, sous protectorat français, le 1er janvier 1937. C'est-à-dire presque 2 mois avant la naissance de Bouteflika. Son père travaillait auprès d'un notable Oujda qui s'appelle Hajj Boussif, qui était président de l'Amicale des musulmans en Maroc. Hajj Boussif était un notable, une notabilité, qui lui-même, Hajj Boussif, a reçu la Légion d'honneur en 1945, signée par De Gaulle. Voilà. Et donc Hajj Boussif c'était un propriétaire terrien, il avait un hammam, il était mandataire du marché de gros à Oujda, et donc c'est lui qui avait accueilli le père de Bouteflika, qui est devenu presque son chargé de mission, il s'occupait du marché de gros, du bureau du marché de gros de Hajj Boussif, et il faisait espèce de chargé de mission, il accueillait les notabilités françaises et marocaines qui venaient au Maroc, et il officiait comme espèce d'agent de renseignement.
Et d'ailleurs, il avait d'ailleurs hérité d'un surnom.
Ce Bouteflika, on l'appelait, ses amis d'enfance, au collège ou au lycée, on l'appelait Ouled El Bia, c'est-à-dire cette espèce de... On peut traduire, c'est le fils de l'informateur ou de l'indicateur. Il a toujours souffert de cette... Donc le père travaillait auprès de Hajj Boussif. Hajj Boussif qui était très lié d'amitié avec le maréchal Juin. Et d'ailleurs, le maréchal Juin est le parrain du petit-fils de Hajj Boussif qui s'appelle Mustapha Berri. Le père était souvent absent de la maison parce qu'il était pris par son travail, parce que il voyageait un peu partout dans le Maroc, surtout le Maroc oriental pour le compte de Hajj Boussif. Et donc c'est sa mère, c'est la mère qui a pris la place du père. C'est la mère. Bouteflika, c'est le garçon aîné de Mansouria. Et c'est le troisième enfant du père.
Oui, parce qu'il avait une première épouse. Hein.
Voilà, première épouse avec laquelle il a eu 2 ans, 2 filles. Ensuite, il a épousé Mansouria. Il y a quasiment presque aucune documentation sur cette période. D'abord parce que les personnes qui ont connu cette période ne sont plus de ce monde. Et puis, Bouteflika n'a presque jamais parlé de son père. C'est-à-dire que moi, j'ai interrogé des gens qui l'ont connu à Oujda.
Même s'il lui reste une photo.
Il lui reste une seule photo,
ouais,
que j'ai pu obtenir. Et je vous raconte une anecdote sur cette photo après. J'ai posé la question à des ministres, des premiers ministres, à des gens qui l'ont connu. Est-ce qu'il vous a parlé de son père? Est-ce qu'il vous parle? Pratiquement jamais. Jamais. Il ne parle jamais de son père. Sauf une fois ou 2 fois. Un jour, l'ancien premier ministre Benflis prépare son nouveau gouvernement. Alors il suggère à Boutef le nom de quelqu'un. Je ne vais pas citer, ça ne sert à rien. Tu vois.
Vous le citez dans le livre.
Oui. Il suggère le nom de Bou Abdallah.
Voilà.
Le fils de Bou Abdallah, comme ministre. Il lui dit, non, vous ne connaissez pas son père mieux que moi. Et il clôt la discussion. pas question que ce Bois Abdallah devienne ministre. Ok, bon, d'accord. Le lendemain, il revient au bureau, dans son cartable, une photo. Une photo dans laquelle on voit le père de Bouteflika assis à côté du père de Bois Abdallah. Il lui montre la photo, il lui a dit, vous ne le connaissez pas mieux que moi. Pas question. Et c'est vrai que le père de Bouteflika connaissait ce Bois Abdallah. Hajj Bois Abdallah, on l'appelle Hajj Bois Abdallah, c'était aussi un notable au niveau propriétaire terrien, notable dans l'Oriental, qui a beaucoup aidé la résistance marocaine. Il avait ses entrées au Palais Royal. Et ensuite, il a beaucoup aidé la révolution algérienne. Il a aidé financièrement la révolution algérienne. Il a mis à la disposition de l'ALN ses propres terres où on a installé des camps d'entraînement. Et c'est dans un des camps d'entraînement qui était la propriété de Hajj Bou Abdallah que Bouteflika a fait sa formation de contrôleur. Et quand Bouteflika en 56 à l'appel du FLN
pour les étudiants, pour les
pour
jeunes,
les étudiants, ouais, les lycéens, de
l'appel de rejoindre le maquis.
Le maquis, Bouteflika n'est pas parti, n'a pas répondu à l'appel tout de suite. Bien au contraire, il a quitté le lycée, oui, mais il n'a pas répondu à l'appel tout de suite, comme beaucoup de jeunes. Il a même postulé un poste de policier ou de gendarme de Oujda, mais sa demande a été refusée.
Parce qu'il était trop petit.
Dommage, l'ancien ministre de l'Intérieur, Driss Basri, a raconté ça à un ami. Il lui a dit, il lui a raconté cette anecdote et il lui a dit, moi j'ai la demande de Bouteflika.
Mais pour cette anecdote de la photo, quand il refuse de nommer le fils ministre, il fait preuve d'ingratitude.
Oui.
Parce que son père...
Le père Bou Abdallah, justement, j'allais en venir. Ouais. Et donc Bouteflika n'a pas répondu tout de suite à l'appel du FLN. Et il traînait à Oujda, entre le hammam de sa mère. Parce qu'il écrivait un public, il écrivait des lettres, il aidait les gens. Et il a attendu jusqu'au mois de novembre, c'est-à-dire presque 8 mois après l'appel, pour aller se présenter dans un bureau de recrutement. Et là, quand il se présente au bureau de recrutement, il se présente avec son frère de lait, Mustapha Berri, dont, comme je la rappelle, dont le parrain était le maréchal joint. Et donc, quand il se présente au bureau du recrutement, la personne qui recrute, qui s'appelle Zewi, il lui dit, passe comme ça, sors d'ici. Il refuse qu'il soit recruté à la LN. Il lui dit, vous êtes, il dit aux deux, vous êtes venus laver l'honneur de vos pères. Voilà. Donc,
On vous fait pas confiance.
Voilà, on fait pas confiance parce que comme je vous le dis, le passé du père de Bouteflika était un sujet à caution parce que il avait la réputation d'être une espèce d'informateur, d'agent de l'administration. D'ailleurs, on l'appelait le khbarji. Khbarji, ça veut dire en français celui qui rapporte l'information. Voilà. Donc on a refusé que la personne qui recrute les jeunes maquisards a refusé que Bouteflika rejoigne la révolution. Et il a fallu l'intervention de Bou Abdallah, comme j'ai dit, qui est une notabilité, et qui intervient auprès de Boussouf, qui était un historique du FLN et celui qui deviendra patron des services de l'enseignement algérien. Et donc, il est intervenu auprès de Boussouf, il est intervenu auprès de Zawi, le recruteur, pour lui dire « Il ne faut pas que les enfants payent pour leurs parents. » Voilà. Et c'est là où...
Ils ont pu
et si Bouteflika a rejoint le maquis, c'est grâce à ce Bou Abdallah. Et donc, il savait très bien, quand il lui a dit, quand il a dit à Bleflis, moi je ne veux pas, je connais Bouabdallah mieux que vous, il fait preuve d'une ingratitude parce que s'il a bien rejoint le maquis, c'est grâce à M. Bouabdallah.
Farid Alila, vous publiez Bouteflika, l'histoire secrète aux éditions du Rocher, et on le voit, c'est passionnant. Il y a quoi? Il y a 400 pages, vous allez voir que vous ne lâchez pas, il aurait pu y avoir facilement le double. Hein. D'ailleurs,
Oui, je pense que. Déjà, la présidence de Bouteflika, les 20 ans de Bouteflika méritent pas simplement un livre, méritent plusieurs livres.
Voilà. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bouteflika, l'histoire secrète aux éditions du Rocher, c'est le livre dont on parle aujourd'hui. Notre invité, c'est Farid Alilat. Souvent, quand il y a un titre où il y a écrit l'histoire secrète, généralement, il n'y a que le titre qui est secret, parce qu'à l'intérieur du livre, il n'y a pas beaucoup de secrets. Mais vous, effectivement, vous êtes allé fouiller l'histoire pour raconter des secrets derrière toute cette histoire de l'ancien chef de l'État algérien. Finalement, il devient secrétaire de Boumediene alors que c'était pas son choix à lui.
Là encore, l'absence de témoins ou de documentation sur cette période fait que c'est très très difficile de creuser cette période sur laquelle Bouteflika ne s'est jamais attardé ni expliqué. Et la preuve, c'est que il y a un mensonge officiel, c'est que dans la biographie officielle, il est dit qu'il est né à Tlemcen, alors qu'il n'est pas né à Tlemcen, il est né à Oujda. Et donc, Boumediene l'a pris sous son aile. Il devient secrétaire de Boumediene. Et plus que ça, il y a une relation de presque paternelle qui commençait à se nouer au début des années, enfin à la fin des années 50, quand il travaille auprès de Boumediene. Et plus tard, Boumediene dira sur son lit d'hôpital à Moscou en 78, il dira à quelqu'un, à son confident, il dit, j'ai été pour lui le père qu'il n'a pas eu.
Mais Boumediene a toujours couvert, en tout cas dans la première partie, Bouteflika, alors que très vite sa vraie personnalité est affichée. C'est quelqu'un de dilettante qui est célèbre, c'est sa marque de fabrique, pour des disparitions non expliquées. Il s'en va, il revient pas, et puis il revient quelques jours après.
Alors j'ai posé la question au compagnon de Boumediene, expliquez-moi cette indulgence que Boumediene avait pour Bouteflika. Boumediene qui est très très sévère, rigoureux vis-à-vis de ses ministres, il lui passe tout. C'est-à-dire que Bouteflika avait cette réputation, y compris pendant la guerre d'Algérie, de disparaître pendant des semaines, des mois, sans donner aucune trace de vie. Par exemple,
dans l'armée, c'est pas pratique quand même.
Oui.
Quand vous êtes un militaire,
oui.
C'est.
Par exemple, quand Boumediene l'a envoyé avec trois autres sous-officiers pour créer le soi-disant front du Mali, ils arrivent au Mali. Bouteflika reste une dizaine de jours au Mali. Il fait des allers-retours entre Gao et Bamako. Ensuite, au bout d'une dizaine de jours, il prend l'avion Bamako pour rejoindre Casablanca. Et Casablanca, il rejoint Tanger où il s'installe dans une espèce de piole ou d'appartement et disparaît en galante compagnie pendant, il donne pas signe de vie pendant. Pendant quelques semaines. Ensuite, il revient auprès de Boumediene. Boumediene ne rien du tout. J'ai jamais trouvé d'explication. Pourquoi Boumediene lui passait tout? Pourquoi Boumediene fermait les yeux sur
En tout cas, dans cette période-là.
Voilà.
Et c'est là qu'il obtient son fameux surnom, Abdelkader du Mali.
Abdelkader du Mali. Et l'explication, je me suis posé la question, pourquoi il a pris le surnom de guerre Abdelkader. Et j'ai eu l'explication par le biais d'un ami de Bouteflika. Il a pris le nom d'Abdelkader parce qu'il avait de l'admiration pour l'émir Abdelkader. D'où Abdelkader, le nom de guerre. Et d'ailleurs, un jour, il a dit La phrase, je ne me rappelle pas exactement la phrase, il a dit en substance, l'Algérie a connu un seul grand homme, c'est l'émir Abdelkader, et moi je lui ressemble un peu.
Il a tout fait très très tôt, hein, sauf président de la République. À 24 ans, Boumediene, Houari Boumediene lui confie une mission. Il se rend en décembre 61 au château d'Aulnois, où sont enfermés les cinq chefs historiques du FLM, Bitad, Boudiaf, Ben Bella, Kider et Aït Ahmed. Comment est-ce qu'ils le reçoivent, les cinq?
Alors là, c'est là où, se noue le destin de l'Algérie. Boumediene était en conflit avec le GPRA, donc il voulait gagner à sa faveur un historique dont l'objectif justement de renverser le GPRA, le gouvernement provisoire, et de prendre le pouvoir après l'indépendance.
Donc c'est primauté, voilà. De l'armée,
voilà.
Donc, sur le civil, ouais. C'est ça qu'il faut comprendre, voilà. À ce moment-là.
Et donc il envoie Bouteflika au château d'Aulnois où sont détenus les historiques Aït Ahmed, Boudiaf, Ben Bella, pour leur proposer tout simplement de prendre le pouvoir avec l'appui de l'armée des frontières. Voilà, en gros. Boudiaf le rembarre. Même chose pour Aït Ahmed qui ne donne pas suite à. Ahmed Ben Bella voit tout de suite l'intérêt qu'il a à s'associer avec Boumediene, avec l'armée des frontières, et donc il accepte le deal. Ben Bella accepte la proposition, c'est-à-dire de s'associer avec Boumediene pour renverser le GPRA, et c'est ce qui s'est passé exactement.
Ce pacte qui va se concrétiser, ouais. en juillet 62. Alors on prend des raccourcis, hein, parce que c'est, oui. une longue histoire. Le 27 septembre 62, Bouteflika est nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. Il est jeune, hein, là aussi.
Très jeune député. En 63, donc, c'est quoi, 23 ans, 24 ans, je crois.
25 ans. Mais enfin, voilà. il est jeune pour être premier dans le premier gouvernement de l'Algérie indépendante. Et il ne change pas ses bonnes vieilles habitudes de nos sœurs, à tel titre qu'il est surveillé. Il y a des rapports, oui. qui arrivent tous les jours sur le bureau de Ben Bella. Et là aussi, il couvre Ben Bella.
Et Ben Bella s'est pris d'affection pour lui, au départ, et il avait cette réputation de bon vivant, de danseur qui passait, qui allait dans les... C'est quelqu'un qui n'a jamais, il n'a jamais bu une goutte d'alcool.
Quand on dit danseur, c'est...
C'est-à-dire qu'il aimait aller dans les soirées, dans les restaurants, mon galant de compagnie.
Et fumer le cigare.
C'est un charmeur aussi. Très bel homme. Bel homme qui aimait charmer les femmes et dont les femmes aimaient la compagnie. Donc il sortait comme tous les jeunes de l'époque. Il avait 25 ans, 24 ans, il sortait et il n'avait pas la réputation de quelqu'un de bosseur, et cette réputation va le poursuivre jusqu'à sa période de président. C'est pas quelqu'un qui bosse. Il allait très peu au bureau. Il aimait travailler chez lui ou il recevait ses collaborateurs. Et donc Ben Bella lui passait tout. Et au bout, au bout de d'une année ou de deux ans, la relation entre lui et Ben Bella s'est dégradée à tel point que Ben Bella a décidé de le limoger du poste de ministre des Affaires étrangères, et c'est exactement cette décision de limoger Bouteflika du poste de ministre des Affaires étrangères c'est l'étincelle qui a provoqué le coup d'État.
Alors vous racontez qu'il lui demande que Ben Bella le convoque le soir, il lui demande de réfléchir à sa démission. Il lui dit surtout ne vous en parlez pas. Voilà. Bouteflika le rappelle, le raconte à tout le monde, Boumediene et tout ça.
Il est parti se plaindre au pays de Boumediene. C'est vrai que bon, les rapports entre Boumediene et Ben Bella n'ont jamais. Ils ont été toujours tendus, pas exécrables, mais tendus, méfiants. L'un et l'autre se surveillent. Boumediene avait de l'ambition. Quand Ben Bella décide de limoger Bouteflika du poste de ministre des Affaires étrangères, donc Bouteflika va voir Boumediene, il se plaint de lui, et c'était l'occasion de commencer à préparer le coup d'État qui allait renverser Ben Bella le 19 juin 65. Et d'ailleurs, Hervé Bourges qui a connu
parce qu'il a été chef de cabinet.
De Ben Bella,
ouais.
Utilise le terme de catalyseur en parlant de Bouteflika. Il dit Bouteflika a été le catalyseur du coup d'État du 19 juin 65.
Alors, vous racontez la période. Hein, c'est le lendemain d'un match incroyable, puisque c'est l'Algérie qui rencontre le Brésil de Pelé. Oui. À Oran, donc tout le monde pense à autre chose. Hein. Ouais. Même Ben Bella est parti voir le match, ouais. Donc lui il est tranquille, il revient à Alger et il ne sait pas ce qui va se passer.
Oui, là, avant ce match Algérie-Brésil auquel assiste Ben Bella, déjà l'idée a déjà été. La décision a déjà été prise de renverser, de faire le coup d'État. Et quand on a proposé, je ne sais plus qui a proposé qu'on arrête Ben Bella à la sortie du match, et là Bouteflika dit mais vous êtes fou, on peut pas l'arrêter pendant le match ou après le match parce que il y a des millions, il y a des dizaines de millions, voilà. Et donc l'idée de le renverser juste avant ou après le match a été abandonnée. On a décidé de l'arrêter au soir du 19 juin chez lui en pyjama dans sa ville.
Ensuite, donc Boumediene prend le pouvoir, Bouteflika devient ministre des Affaires étrangères.
Reste ministre des Affaires étrangères.
Voilà, c'est sa grande période là. C'est, voilà. C'est...
Alors il y a deux Bouteflika comme ministre des Affaires étrangères. Il y a l'image officielle qui veut qu'il soit le chef de la diplomatie algérienne. La figure de proue de la diplomatie algérienne, brillant diplomate, travailleur, qui connaît tous les dossiers, qui s'occupe de tous les dossiers. Et ça, c'est l'image qu'on a bien voulu donner de lui. Mais en fait, la réalité est tout autre. Il était la devanture
de l'Algérie indépendante.
De la diplomatie algérienne. Boumediene a installé graduellement, à partir de 67-68, il a installé une diplomatie parallèle. Parce que soit il ne faisait pas confiance à Bouteflika sur certains dossiers, soit...
Alors par exemple, vous parlez du dossier du Sahara
occidental.
Donc il lui retire le dossier.
Il le confie à Taleb Ebrahimi, par exemple.
Et qu'est-ce qu'il lui confie d'autre comme dossier? Il lui retire d'autres comme dossier.
Par exemple, les relations avec la Palestine, c'est pas du tout lui qui a géré ce dossier, cette question. Par exemple, les relations avec les pays arabes, c'est Taleb Ebrahimi qui a pris en charge. Et d'ailleurs, en tant que ministre des Affaires étrangères, Bouteflika n'assistait presque jamais, ou il boudait, les sommets de la Ligue arabe. Et un jour, un ministre koweïtien des Affaires étrangères se confie au ministre algérien des Affaires étrangères et lui dit « Mais pourquoi votre ministre ne vient presque jamais assister à nos sommets? Est-ce qu'il nous snob, il nous boude ?» Donc, Boumediene avait installé une diplomatie parallèle en confiant, par exemple, en confiant le dossier des relations au Maroc avec le Sahara occidental, là, par exemple, Attal Ibrahim, il se méfiait, il connaissait très très bien, il était la personne qui connaissait le mieux Bouteflika, pour se méfier de lui sur la question du Maroc, parce que il a vécu au Maroc pendant les 20 premières années Bouteflika. Son père avait des relations avec le palais royal, donc à la limite, jusqu'à l'âge de peut-être de 20 ans, je peux dire peut-être qu'il se considérait comme un sujet marocain.
Farid Alila, t'es notre invité. Je rappelle, Farid, que vous publiez Bouteflika, l'histoire secrète aux éditions du Rocher.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bouteflika, l'histoire secrète, les coulisses de cette histoire de Bouteflika, jusqu'au dernier jour de sa présidente. Le journaliste Farid Alila est notre invité, l'éditeur c'est les éditions du Rocher. Bouteflika et les femmes, alors vous parlez d'une femme, Malika Ladjali, avec qui il a eu une longue liaison. Pendant longtemps, sa mère a refusé d'une certaine façon de le marier. Et puis, à un moment donné, elle a dit, bon, c'est fini, la récréation, on va te marier.
Sa mère a joué un rôle extrêmement important dans sa vie. Parce qu'il avait une relation fusionnelle avec sa mère. Vraiment, une relation fusionnelle avec sa mère. C'est une femme qui a élevé presque toute seule ses enfants. C'était son aîné. Et donc, elle avait une relation... très, je dirais pas incestuel, non, pas du tout, mais vraiment fusionnel. Il l'a consulté sur tout, et en tant que ministre des Affaires étrangères, ou en tant que président, quand il était à Alger, il n'entamait jamais une journée de travail sans aller rendre visite à sa maman.
Alors Malika Ladjali, par exemple, sa mère a pas voulu qu'il se marie avec elle.
Bon, alors, on le dit, oh ma femme...
Séducteur,
oui, non seul, c'est quelqu'un qui aimait charmer.
Giscard avait des dossiers, soi-disant.
Voilà. Mais sa maman s'est toujours opposée à ce qu'il se marie. Un jour, elle a dit à quelqu'un qui me raconte la scène, cette femme demande à la mère de Bouteflika, mais pourquoi votre fils n'est pas marié, pourquoi vous ne mariez pas votre fils? Et elle lui dit, mais si mon fils se marie, qui va s'occuper de moi et de ses frères? Et une autre fois, elle lui pose la même question, pourquoi votre fils n'est pas marié? Elle lui dit, mais mon fils rentre tous les soirs avec une femme. C'est la façon de dire, voilà, elle n'a pas besoin de le marier. Et c'est vrai qu'il a eu des relations avec Malik Ladjali, il a eu des relations avec Ilko Etienne aussi. Et sa maman, voilà, sa maman, peut-être parce qu'elle avait peur de perdre son fils, donc elle s'est toujours opposée à ce qu'il se marie. Et d'ailleurs, un jour, Bouteflika a dit à un de ses amis qui me raconte ça, il lui a dit, ma mère m'a cassé.
Mais... elle consent à le marier en août 90. Alors c'est un mariage arrangé,
oui,
dites-vous.
C'est un mariage
avec
arrangé.
Amel Triki, de qui est-elle la fille ?
Qui était la fille d'un diplomate algérien qui travaillait à l'ambassade d'Algérie, notamment à l'ambassade d'Algérie en Égypte, un vieil ami de Bouteflika, quand Bouteflika était ministre des Affaires étrangères et qu'il descendait au Caire, il rencontrait ce Ahmed Triki, si ma mémoire est bonne, il s'appelle Ahmed Triki. Donc voilà, en 90, pourquoi
Bouteflika... C'est un mariage étrange.
Alors, pourquoi Bouteflika décide de se marier? Mon explication, parce que j'ai discuté très longtemps, plusieurs reprises, avec le témoin de son mariage, qui n'arrive pas à trouver une explication lui aussi. Alors, en 90, il faut savoir que Bouteflika a quitté, quand il a été dégommé de son poste de ministre des Affaires étrangères, juste en mars 79, juste après l'élection de Cheikh Ben Jdid, il devient conseiller, simple conseiller à la présidence, il a un petit bureau à la présidence, et puis c'est la disgrâce. Et Et il décide de quitter l'Algérie, volontairement. Il n'a jamais été chassé, hein. C'est un exil volontaire. Et donc il décide de quitter l'Algérie pour s'installer un peu partout. Si vous voulez, on peut revenir sur cette période. Et donc il décide de s'installer en Algérie, plutôt de quitter l'Algérie, de s'installer entre Paris, Genève, les Émirats, Damas, et ce qu'il appelle sa traversée du désert. Et donc, il revient en Algérie.
Il faut expliquer que, bon, alors, c'était pas le sujet, mais ouais. Parce qu'il est compliqué, mais il y a quand même une histoire d'argent, de détournement d'argent, qui l'empêche de revenir. Donc,
Je vais revenir à cette histoire de mariage après. Donc, en 88, il revient en Algérie. Donc, c'est la fin de l'exil volontaire et de la traversée du désert. Il réintègre le FLN, dont il a été exclu. Donc, il revient au pays. Voilà. Et donc, il est réintégré au niveau du FLN. Il ambitionne, bien sûr, toujours de jouer un rôle dans les arcanes du pouvoir. Et ça faisait mauvais genre de rester vieux garçon. Alors que tous les apparatchiks, tous les responsables sont mariés, certains sont même de grands-parents. Et lui, il était toujours célibataire. Et donc, ça faisait mauvais genre. Et donc, sa mère a arrangé ce mariage avec cette femme.
Qui est très jeune, elle était étudiante.
Oui, très jeune, très belle femme, qui n'a pas assisté à son mariage. Le mariage s'est déroulé en mois d'août 90 en petit comité. C'est ce qu'on appelle la fatiha, c'est un mariage religieux. Et à ma connaissance, j'ai interrogé le témoin des mariages et d'autres personnes. Il n'a jamais vécu avec elle.
Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que quelques mois après, il va marier son frère en grande pompe.
Oui. Et marie son frère en grande pompe.
Avec tout le monde, là, pour le coup, grande fête, le banc et l'arrière-banc, tous les notables, tous les membres du FLN. Ça ne rien y comprendre.
Et donc il marie, et c'est lui qui devient, c'est lui le maître de cérémonie. C'est lui qui a accueilli tous les responsables de tous les apparatchiks du FLN, les militaires, voilà, tout ce que comptait, toute la nomenclature.
Mais pourquoi? Pourquoi il le fait pour son frère et pas pour lui?
Et j'ai posé la question à son témoin, mais pourquoi? Et lui-même lui a posé la question, mais il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, c'est ton mariage déguisé, quoi. Pour lui, c'est une cérémonie de réhabilitation. C'est-à-dire que moi, j'ai été banni, j'ai été condamné par la Cour des comptes en 83, j'ai été chassé du pouvoir, j'ai été empêché d'être président, je suis tombé en disgrâce, et là je reviens, et j'accueille les gens, cérémonie, j'accueille tout le monde, je me réhabilite. Voilà.
On viendra rechercher Amel Triki donc au moment où il devient président en 99. Oui. Elle vivra au palais ou pas? Et les Algériens ne la verront jamais comme première dame.
Non. Et donc.
Ils ne savent même pas qu'elle existe.
Voilà. Certains savent qu'elle existe, mais on n'a jamais vu sa photo. Le mariage religieux, pas de mariage civil. La fille ne vit pas avec lui. Elle part s'installer en France. Et en 99. Juste après l'élection de Bouteflika, on va la chercher à Paris. Elle vient s'installer chez la mère de Bouteflika. Et quand Bouteflika vient voir sa mère comme tous les jours, le soir, il discute, après il repart tout seul. Peut-être que les gens vont dire, mais pourquoi on s'intéresse à la vie privée et la vie intime du chef de l'État? On n'entend pas, je ne rentre pas dans la chambre à coucher de Bouteflika, mais là on parle de la première dame, hein, de l'absence de la première dame. Boumediene avait une femme, première dame, qui assistait, qui était avec lui pendant, qui partait avec lui pendant les voyages, qui assistait aux cérémonies, qui avait l'activité, qui avait aussi un peu d'influence. C'était pas un secret, son mariage n'était pas
même
un secret.
Même si le cercle autour de Boumediene a toujours été contre. Hein.
Oui.
Mais Bouteflika n'a pas voulu s'afficher avec une première dame.
Chedli avait une première dame qui assistait aux cérémonies, au dîner, au déjeuner, qui l'accompagnait dans les visites officielles. C'était pas quelque chose de secret. Bouteflika a gardé le secret sur et d'ailleurs un jour il y a une fille qui lui a posé la question, je crois, dans une interview à une chaîne libanaise en 99, elle lui a dit est-ce que vous êtes marié, et il a dit non, je n'ai jamais été marié, donc il a caché son mariage. Après la fille s'est remariée.
Elle travaillait à l'ambassade de l'ambassade d'Algérie en France.
Voilà.
Alors c'est passionnant parce qu'on a les coulisses des derniers jours de la présidence de Bouteflika. Je vous la fais courte parce que l'émission est trop courte. On préfère des heures avec vous. Vous racontez que dans les derniers jours, Saïd Bouteflika décide de s'allier avec Toufik Médiane, donc le général Toufik, pour faire un plan B. L'idée, c'était de faire revenir Zerwal pour organiser une période de transition.
Alors, il faut que je vais prendre un peu le temps d'expliquer ce qui s'est passé.
Vous avez 4 minutes. Hein, donc.
Voilà. Donc, à l'été 2018, quelques mois avant l'élection présidentielle d'avril 2019, le cercle familial, c'est-à-dire la famille de Boutef, ses deux frères et sa sœur, se pose, qu'est-ce qu'on va faire pour avril 99, est-ce qu'il faut aller vers un cinquième mandat ou est-ce qu'il faut prolonger l'actuel mandat?
Parce qu'il n'était Mais la famille dit non.
Parce qu'il n'était pas question pour Bouteflika de quitter le pouvoir. Voilà. Il veut être président, mourir président et avoir des funérailles nationales. Donc, on s'est rendu compte que Saïd s'est rendu compte avec la famille que c'était très difficile de vendre l'idée du cinquième mandat, parce que c'est un président finissant, il est grabataire, il ne parle pas, il est sur une chaise roulante, il ne voyage pas, c'est un fantôme. Donc c'est très difficile. Déjà, on a fait passer difficilement le quatrième mandat, mais le cinquième mandat, il ne passerait pas. Donc, il fallait trouver autre chose. Donc, il essaye. Donc, il travaille d'abord pour l'option d'une période de transition. Prolonger le quatrième mandat de 2 ans, 3 ans, faire une période de transition, permettre à son frère de terminer et de mourir au pouvoir, ensuite garder le pouvoir. Et mais cette option n'a pas marché, parce que ni la classe politique ne voulait, ni le chef d'état-major à l'époque,
Gaït Salah,
ne voulait cette option. Gaït Salah voulait rester dans le processus constitutionnel, c'est-à-dire une élection présidentielle. Il était favorable à un cinquième mandat. Ok, donc il fait un cinquième mandat, ce qui a provoqué la révolution du 22 février, plus les manifestations prenaient de l'ampleur, plus la position du président et de son clan devenait intenable. Si bien que l'armée était arrivée à cette situation où il fallait choisir entre l'Algérie et Bouteflika. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Et pour autant, Saïd et son frère Bouteflika ne voulaient pas, absolument pas, lâcher le pouvoir. Donc il fallait à tout prix garder la main. Donc d'où l'idée de proposer une période de transition qui pourrait être dirigée par Zerwal. Et donc Saïd demande à Toufik, l'ancien chef du service de l'enseignement, de proposer à Zerwal de présider, de diriger cette période de transition. Et l'accord de Zerwal passait nécessairement par l'élimination de Gaït Salah. Dès que Zerwal aurait accepté, on limogerait de facto le chef d'état-major de l'armée qui s'opposait.
Alors, est-ce que Boutef a signé justement le limogeage de Gaït Salah ou pas?
Non, je n'ai pas de...
C'est une question que je pose.
C'est une question
que vous posez dans votre livre
aussi.
Voilà,
moi je pose la question, je n'ai pas de preuves. Ouais. Ce que moi je sais, c'est du témoignage de première main, c'est que Zerwal, le 30 mars, après la rencontre avec Toufik, il reçoit un coup de fil de Saïd Bouteflika à 17h pile. Saïd lui dit, je vous fais savoir que le président a l'intention de limoger le chef d'état-major de l'armée. Voilà. Et Zelwa lui dit, en quoi je suis concerné par cette information? De toutes les façons, vous avez travaillé ensemble pendant 15 ans et il n'y a jamais eu de problème. Et je vous précise que si le limogeage du chef d'état-major va compliquer encore davantage la situation.
Et là, Zelwa décide de rendre publique la magouille.
Là, Zelwa décide de rendre public, pas la magouille, de rendre public la proposition de Toufik, qui vient lui dire, voilà, je te propose au nom de Saïd Bouteflika de diriger la transition. Et là, le 2 avril, l'armée donne un ultimatum à Bouteflika.
Voilà, montrez votre livre à la caméra puisque l'émission est filmée. C'est passionnant, la suite est dans votre livre. Merci Farid Alila d'avoir été avec nous. Vous réécoutez le podcast de l'émission sur beurrefm.net et puis vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurrefm. Bon dimanche à tous.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurrefm.